VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonsoir, bienvenue. On commence par le Kenya. Bilan contradictoire après une attaque d'Al-Shabaab dans le nord du pays, près de la frontière avec la Somalie. Nicolas Pino.
Ce qui est sûr, c'est que des policiers kényans ont été attaqués dans la région de Garissa, plus précisément entre Fafi et Yumbis. Un véhicule a d'abord été touché par un engin explosif. Lorsque des renforts sont venus les secourir, les djihadistes d'Al-Shabaab leur ont tendu une embuscade meurtrière, selon Mwenda Joka, porte-parole du ministère kényan de l'Intérieur. Selon un bilan provisoire confirmé par Nairobi, un policier est mort, 4 autres blessés. Mais 13 autres policiers seraient portés disparus, selon l'AFP qui cite le porte-parole de la police, Georges Kinoti, mais aucune confirmation officielle depuis. Une vaste opération de sauvetage est en cours pour essayer de retrouver les policiers disparus. Début avril, un commando Shabaab avait attaqué l'université de la ville de Garissa et massacré 148 personnes, dont 142 étudiants.
En République centrafricaine, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a exhorté aujourd'hui la communauté internationale à verser l'aide promise au pays pour financer des élections d'ici la fin de l'année. La ministre centrafricaine de l'économie, Florence Limbio, a chiffré les fonds manquants à 17 millions de dollars et souligné que le pays ne dispose que de 6-8 mois, pas plus, pour organiser le scrutin. Le gouvernement burundais a appelé ses concitoyens à la solidarité nationale et a ouvert une souscription publique pour financer les élections législatives et présidentielles des 5 et 26 juin. C'est ce que rapporte l'AFP. Les précisions de Jacques Aristide.
Dans un communiqué, la présidence burundaise précise qu'un compte dédié a été ouvert auprès de la Banque du Burundi. Elle invite à ce qu'elle appelle les citoyens patriotes à une contribution volontaire pour financer les élections et d'indiquer que le gouvernement a déjà rassemblé une bonne partie des moyens nécessaires pour la tenue de ces scrutins. Auparavant, le gouvernement avait déjà annoncé l'ouverture d'une ligne budgétaire de 44 milliards de francs burundais, environ 27 millions de dollars, pour financer le processus électoral. Une décision qui intervient après le gel de l'aide financière à hauteur de 80% par la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, pays qui réclament le report des élections en raison des manifestations quasi quotidiennes contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Mais les autorités ont rejeté tout renvoi de ces scrutins.
Un léger mieux dans l'épidémie de choléra qui frappe les Burundais ayant fui les troubles dans leur pays pour se réfugier dans le nord-ouest de la Tanzanie. L'épidémie fait actuellement environ 100 nouveaux cas par jour, contre presque 400, c'était la semaine dernière selon l'ONU. Aucun décès n'a été signalé début jeudi dernier, a précisé à Genève un porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'épidémie de choléra a fait 30 morts, un décès ayant été reclassé selon le HCR. Au total, 4408 cas ont été signalés. Il est 15h03 à Bujumbura.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la justice a exhumé aujourd'hui la dépouille de l'ancien président assassiné en 1987 afin d'éclaircir les circonstances de sa disparition, lui et 12 de ses compagnons d'infortune. C'est la conséquence de la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014. En ligne de mire de cette opération d'exhumation du corps de Thomas Sankara, la responsabilité du président déchu dans cet assassinat sous Blaise Compaoré, en effet, la justice était toujours refusé. Au Niger, 38 organisations de la société civile appellent à une marche le 2 juin à Niamey pour exiger la libération immédiate de deux de ses leaders. Moussa Tchangari de l'association Alternative Espace Citoyen est accusé de complicité avec Boko Haram et Nuhu Azirka du mouvement pour une citoyenneté responsable est accusé, lui, d'atteinte à la défense nationale. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ali Idrissa. Il est signataire de la déclaration de la société civile à Niamey.
Nous refusons d'accepter que nos camarades gardent prison sous de fallacieux prétextes parce qu'ils n'ont fait que émettre des avis sur des chaînes de radio et de télévision. En matière de délit de presse chez nous, aujourd'hui, c'est dépénalisé pour avoir émis des avis, pour seulement avoir, pour le cas de Nuhu, exigé à ce que les forces de sécurité soient mises dans les conditions pour pouvoir combattre les terroristes. Nous ne pouvons pas considérer que c'est lui qui va être accusé d'atteinte à la défense nationale. Il n'a fait que appeler à un renforcement du dispositif nigérien de lutte contre Boko Haram.
Ali Idrissa, signataire de la déclaration de la société civile à Niamey. Au Nigeria, au moins 23 personnes ont été tuées samedi dans le centre du pays. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la police, qui suspecte des nomades peuls en conflit de longue date avec des communautés agricoles de cette région troublée. L'attaque a visé 3 villages dans le district de Logo, dans l'état de Benue, selon un porte-parole de la police. Au Mali, un casque bleu bengladais a été tué et un autre grièvement blessé hier soir à Bamako. Idriss Fall.
La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a fait état d'un incident dans les environs de l'aéroport de Bamako. Le communiqué précise qu'un casque bleu a été blessé et un autre a succombé suite à ses blessures. Ils auraient subi des tirs d'assaillants inconnus, mais aucun impact de balle n'a été relevé sur leur véhicule. Une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est passé. La semaine dernière, un homme armé avait tenté d'attaquer une résidence du personnel onusien à Bamako, blessant un gardien. Depuis le déploiement de la MINUSMA en juillet 2013, plus de 30 casques bleus ont été tués au Mali. Ce mardi matin, des milliers de Maliens ont manifesté à Bamako pour soutenir l'accord de paix signé par le gouvernement. Les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad n'ont toujours pas signé le texte et exigent le retrait des milices pro-gouvernementales de la ville de Menaka, près de la frontière avec le Niger.
Et l'Égypte a rouvert ce mardi pour 2 jours le point de passage de Rafah, seul accès à la bande de Gaza non contrôlée par Israël. Pour la première fois depuis mars, ont annoncé des responsables palestiniens. Maher Abou Sabah, le directeur des frontières de la bande de Gaza, a indiqué que cette réouverture était destinée à laisser passer les Gazaouis qui étaient bloqués du côté égyptien de la frontière. Après un attentat ayant tué 30 soldats en octobre dans le Sinaï, l'Égypte avait fermé le point de passage de Rafah, imposé un état d'urgence et un couvre-feu dans certaines zones de cette péninsule et établi une zone tampon le long de la frontière avec Gaza. Il est 13h06, temps universel.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Vaste opération militaire en Irak pour reprendre Al-Anbar au groupe État islamique. Les forces irakiennes aidées des milices chiites ont lancé ce mardi une offensive destinée à isoler les djihadistes dans cette province stratégique avant de tenter de récupérer sa capitale, Ramadi. Félix Yepassis Zembrou.
Baptisée à tes ordres Hussein, l'opération vise à libérer les régions entre les provinces de Salah Eddin et d'Al-Anbar. C'est ce qu'a affirmé à l'agence France-Presse Hamed Al-Assadi, un porte-parole des unités de mobilisation populaire. L'annonce survient au lendemain des déclarations de la Maison-Blanche qui a tenté d'apaiser les tensions avec Bagdad, dont l'armée a été accusée d'un manque de volonté face à l'organisation État islamique par le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. Capitale de la province d'Al-Anbar, la plus grande d'Irak, Ramadi avait résisté pendant des mois aux assauts des djihadistes qui l'ont finalement conquise le 17 mai après un assaut de grande envergure et une retraite chaotique des forces irakiennes. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a promis de reprendre cette région s'étendant des limites de Bagdad aux frontières syriennes, saoudiennes et jordaniennes.
Au Yémen, des partisans du président en exil, Abd Rabo Mansour Hadi, ont repris aux rebelles chiites houthistes la ville de Dalet, dans le sud du pays. C'est ce qu'ont affirmé des sources militaires, alors que des combats et des raids aériens se poursuivaient ailleurs sans répit, appuyés par l'Iran et alliés à des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Les miliciens houthistes avaient pris en mars le contrôle de Dalet dans leur offensive vers le sud au prix de sanglants affrontements avec des tribus sunnites et des combattants pro-Hadi. Les forces gouvernementales ont lancé une contre-offensive et reconquis Dalet avec le soutien de la coalition arabe qui, sous commandement saoudien, mène depuis 2 mois des raids aériens contre les positions de la rébellion au Yémen. Les opérations de secours se poursuivent au Texas et au Mexique après de violentes tornades qui ont ravagé la région. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort au Texas et dans l'état voisin de l'Oklahoma. 12 vacanciers sont portés disparus au Texas après que que leurs tentes eût été emportées par la rivière Blanco en crue. La ville de Houston a eu jusqu'à 25 cm de précipitation dans certaines zones. De lundi à ce jour, beaucoup de gens ont été bloqués pendant la nuit dans une arène de sport de Houston et d'autres sont confinés dans leur maison. Au Mexique, la tornade a fait au moins 13 morts et a emporté des centaines de maisons. Vous écoutez VOA Afrique. Merci de nous avoir choisis. Prochaines informations, c'est dans Le Monde aujourd'hui. C'est dans moins de 20 minutes. Merci et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.